C'est l'heure de la revue de presse d'Aurélien Devernois. Bonjour Aurélien.
Bonjour Juliette.
À la une des quotidiens ce samedi, cette question posée par le journal Le Monde, un homme peut-il être féministe ?
Alors oui, mais ce n'est pas gagné si l'on veut résumer très vite, trop vite certainement, les trois pages consacrées au sujet par le quotidien du soir. Premièrement, il s'agit de poser les bases de ce qu'est être féministe, selon le sociologue américain Michael Kimmel, interrogé dans l'un des articles. Si vous êtes d'accord avec la phrase « les femmes et les hommes ne sont pas égaux aujourd'hui, mais ils devraient l'être », c'est un bon début. Sa collègue australienne Rewyn Connell précise les choses, il faut parler de ce sujet avec les femmes, mais aussi prendre une part réelle et pas simplement symbolique au travail domestique et parental, refuser et dénoncer les blagues sexistes et le harcèlement au travail ou dans la rue, se désolidariser des actions et des paroles qui caricaturent les femmes. Je vous le disais, ce n'est pas gagné quand on voit par exemple le traitement réservé à la journaliste Nadia Dam après une chronique sur la radio Europe 1 cette semaine. Libération revient sur l'affaire. Nadia Dam a donc dénoncé dans sa chronique le sabotage par des internautes d'une initiative pour lutter contre le harcèlement sexuel. Depuis, elle est elle-même harcelée sur les réseaux sociaux, victime de menaces, de violences, de viols et même de morts. Sa famille est également visée. Libération relaie par ailleurs une tribune prenant la défense de la journaliste et signée par de nombreuses personnalités.
Pourquoi de telles réactions, Aurélien ?
Alors, Le Monde apporte quelques explications à travers notamment l'entretien réalisé avec l'anthropologue Mélanie Gourarier, auteur d'un livre sur le mouvement masculiniste des hommes qui estiment que le féminisme est devenu hégémonique dans les sociétés occidentales. Des hommes qui, par exemple, protestent contre le fameux hashtag Twitter « balance ton porc ». Rien de bien nouveau, selon l'universitaire, qui explique que ces comportements sont récurrents dès lors que les femmes demandent davantage d'égalité. Ce fut le cas notamment lors des revendications pour obtenir le droit de vote, il y a un siècle maintenant. Et l'une des manifestations de ce masculinisme, c'est la mode des cours de séduction, souvent très macho. Un moyen, explique Mélanie Gourarier, de maintenir le rapport de force dans la relation homme-femme. Un rapport de force toujours très largement au désavantage des femmes. Un exemple que l'Humanité met en avant sur son site internet depuis hier, 11h44 et jusqu'à la fin de l'année, les femmes françaises, dont vous, Juliette, vont travailler bénévolement. Je m'explique, en moyenne en France, une femme gagne environ 15% de moins qu'un homme. Ramenée à l'année calendaire, c'est comme si les femmes travaillaient 58 jours gratuitement depuis donc hier, 11h44.
Merci beaucoup Aurélien. On parle également beaucoup de Donald Trump dans les journaux ce matin.
Un an que c'est dur, titre Libération, avec un peu d'avance. La victoire de Donald Trump à l'élection américaine date du 8 novembre 2016. Une presque année de couac et de communication hasardeuse du pensionnaire de la Maison-Blanche. Une presque année moins 11 minutes, la durée pendant laquelle le président Twitto, tel que l'appelle Libération, a vu son compte désactivé sur le réseau social cette semaine. Résultat d'un pari ou d'un coup de colère, on ne sait pas, d'un employé de Twitter sur le départ. Les réactions à cet incident sont très représentatives, selon le quotidien, entre joie des opposants au président américain et indignation de ses très nombreux partisans. Dans un long reportage en Pennsylvanie, Libération illustre ce clivage, marqué par la désindustrialisation. Cet État traditionnellement démocrate a basculé l'an passé en faveur du milliardaire américain. Et beaucoup d'électeurs ne regrettent pas leur choix, même si leur situation ne s'est guère améliorée depuis un an. Une illustration des divisions de l'Amérique, selon Libération, entre le « eux », habitants des grandes villes, personnes de couleur ou entrepreneurs de la Silicon Valley, et le « nous », col bleu, résidents des petites villes et grandes banlieues, blancs dans leur immense majorité.
À lire également dans la presse du jour, le bras de fer entre les États occidentaux et les géants du net.
Les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft, agacent, explique Le Figaro qui en fait sa une. Ils agacent en Europe pour leur propension à ne pas payer leurs impôts. Ils agacent aussi de plus en plus aux États-Unis, note le quotidien. Pratiques monopolistiques, droit du travail bafoué, problème des données personnelles, porosité aux influences politiques extérieures. La liste des récriminations est longue. Tout ceci est encore très ténu, modère toutefois Le Figaro dans son éditorial. Mais au nom des règles de la concurrence, de la souveraineté des États et tout simplement de la démocratie, il serait temps de se réveiller face au pouvoir démesuré que sont en train d'accumuler ces entreprises.
L'actualité vue par les quotidiens français, c'est aussi l'affaire Patrice Evra.
Le défenseur international français de l'Olympique de Marseille est dans la tourmente depuis son geste de kung-fu sur un des supporters du club jeudi. Un pétage de plomb, selon le journal de la Haute-Marne, qui en dit long sur le monde particulier qu'est le football professionnel, univers d'ego et de pression. Un geste qui condamne l'ancien capitaine de Manchester United à une sortie par la petite porte, celle du déshonneur, poursuit le quotidien. L'équipe revient également largement sur l'affaire et rappelle que de nombreux joueurs de l'OM ont déjà dû faire face au fil des années à des insultes répétées de la part des supporters. Selon le quotidien sportif, ce nouvel incident pourrait pousser la direction du club à demander aux associations de supporters de faire le ménage dans leur rang. Alors que du côté des fans, eh bien certains demandent des poursuites pénales à l'encontre de Patrice Evra, qui a été mis à pied, l'expression est adaptée. Le site d'information SoFoot a lui choisi d'en rire et a demandé à un champion de karaté son analyse sur le coup de pied à la tête, le high kick de Patrice Evra, surnommé Tonton Pat. Verdict, techniquement parfait, je précise évidemment que ce n'est pas un encouragement à le faire.
J'espère, et l'on passe de Tonton Pat à l'oncle Picsou.
Le personnage de Disney fête ses 70 ans et le Parisien consacre une double page au canard le plus riche et le plus avare de la planète. Le quotidien s'est notamment interrogé sur la valeur exacte de ce que contient la maison en forme de coffre-fort d'Onkel Dagobert, c'est son nom en Allemagne. Selon le site américain Life Science, le magot atteindrait 4000 milliards de dollars, soit environ 40 fois plus que la fortune de l'actuel homme le plus riche du monde, le patron d'Amazon, Jeff Bezos. Pas mal pour un canard écossais parti de rien en 1867, son année de naissance dans la bande dessinée, ce qui en fait également le doyen de tous les anatidés, la famille d'oiseaux qui, outre les canards, comprend aussi les oies et les cygnes. La revue de presse Juliette, c'est aussi l'occasion de se cultiver.
Mais je n'en doute pas, Aurélien Devernois, ou de lire Picsou Magazine, par exemple.